Lizzie présente Les Roches Rouges d'Olivier Adam. Lue par Julien Frison
et Lola Némarc. Première partie, de la terre et du sang. J'inaugure ce carnet. Je sais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai rien d'autre à faire. C'est Antoine qui me l'a tendu avant-hier, sous un beau papier cadeau. Je lui ai demandé pourquoi il m'offrait un truc pareil. Il a répondu qu'il l'avait vu dans une boutique et qu'il avait pensé à moi. Qu'il l'avait trouvé joli. Ça m'a séché qu'il ait eu cette idée en le voyant dans une vitrine. Ça m'a touchée aussi. Depuis quand quelqu'un n'avait pas pensé à moi? Je veux dire, vraiment. Même si franchement, ce carnet, je vois pas le rapport. Mais c'est vrai qu'il est beau, avec sa couverture en papier coloré. Du papier japonais, il paraît. J'ai dit, ok, c'est joli, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je sais pas, il a répondu, tu pourrais noter des trucs dedans, tenir un genre de journal. Je me suis marrée. Un journal? J'ai une gueule à tenir un journal, pour qui tu me prends? Et puis je l'ai rangé dans mon sac et on n'en a plus parlé. Mais depuis, j'avoue, ça me trotte dans la tête. Et aussi, cette phrase que nous avait dite un prof un jour, qu'il tenait de quelqu'un d'autre, un réalisateur ou un écrivain, je me souviens plus. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. Elle est putain de vraie, cette phrase. Surtout pour moi. Alors c'est peut-être pour ça, finalement, que je l'ai ouvert, ce carnet. Que j'ai pris un stylo et que je commence à écrire dedans. Pour que les morceaux se joignent un peu plus. Parce que ma vie est un sacré bordel. Et que j'ignore comment j'en suis arrivée là. Je sais pas trop par où commencer. Peut-être par le jour qu'on est. On débute par ça, en général. Bon, on est dimanche, et je déteste le dimanche. Alex passe toute la journée à regarder les matchs, ne s'interrompt que pour sa séance de muscu, ne m'adresse la parole que pour me gueuler de lui amener une bière, ou me demander à quelle heure on mange. Il ne veut jamais sortir. Et quand je lui dis que je vais faire un tour avec Gabi, il me répond « Pas question, le dimanche ça se passe en famille et point barre ». Alors je reste toute la journée enfermée avec lui, en me demandant à quel moment il va péter un plomb, à quel moment la bière va lui monter à la tête. Rien suffit. Un caprice de Gabi, une crise de larmes qui lui tape sur les nerfs, un mot de travers de ma part, un de ces putains de polo Lacoste mal repassé, son costard et sa chemise de vigile mal pliés, un but encaissé par son équipe préférée, un coup de fil d'un de ses associés, comme il les appelle, qui le contrarie. La plupart du temps, il se contente de me hurler dessus, de m'insulter. Mais il arrive que ça dérape. Si je lui réponds, par exemple. Si moi aussi je me mets à crier, alors il devient violent. Et quand je lui dis « je t'en supplie, pas devant le petit », c'est encore pire. Il part en vrille. Mon père était pareil. Il disait qu'il travaillait dur toute la semaine et qu'il voulait pas qu'on l'emmerde le week-end. Il supportait rien. Pas le moindre bruit. Pas le moindre chahut, pas la moindre trace de vie. Il fallait que ma mère file au pas. Et ma sœur et moi aussi. On n'avait pas le droit de sortir. C'était un peu dingue quand j'y pense. Il supportait pas notre présence et refusait qu'on quitte l'appartement minuscule où on se marchait dessus, où la télé était allumée du matin au soir. Ma sœur et moi, on partageait la même chambre. On avait des lits superposés. Jen occupait le matelas du haut et souvent je la rejoignais. On se serrait l'une contre l'autre et on regardait par la fenêtre les maisons et les immeubles qui s'étendaient à l'infini. La gare RER au loin, l'hôpital et les routes entrecroisées. Jen disait qu'un jour elle s'en irait et elle a tenu parole. Un beau matin, je l'ai regardée partir avec son sac sur l'épaule et elle m'a dit adieu. Prends soin de toi, petite sœur. Je l'ai plus jamais revue. Gabi fait sa sieste. C'est pour ça que j'ai rien à faire à part aligner des mots qui servent à rien dans ce carnet. Disons que ça m'occupe en attendant qu'il se réveille. Ce matin, il toussait. Je lui ai pris sa température. 38. Rien de grave, mais je me suis dit, merde, je vais pas pouvoir le mettre à la garderie. Je vais pas pouvoir voir Antoine, putain. Antoine. Qu'est-ce que je fous avec ce mec? À quoi je joue? Si Alex l'apprend, il va me démonter la tête. Ce serait pas la première fois, mais ce coup-ci, il aurait une bonne raison. Vu qu'Alex est devenu le genre de mec qui ne voit pas d'inconvénient à ce qu'un homme corrige sa femme quand elle va voir ailleurs. Ou même sans ça. Un vrai mec, ça doit se faire respecter, il dit. Il n'était pas comme ça quand je l'ai connu. Je sais pas quand il a changé à ce point. Sans doute quand on l'a viré du club et qu'il a pris ce boulot de vigile. Ça s'est fait petit à petit, mais je sais pas. Je crois qu'à force de fréquenter des mecs qui se prennent pour des durs, il s'est mis à se prendre pour un cow-boy, lui aussi. Je me suis arrêtée d'écrire quelques minutes. Juste le temps de lancer une nouvelle machine. D'enfourner le linge dans le tambour, de mettre la lessive, de tourner le bouton. En repassant par le salon, j'ai regardé Alex affalé dans le canapé. Il piquait du nez devant Manchester City Arsenal. Sur la table traînaient 4 grandes canettes de bière vide. J'ai senti ma gorge se serrer. Toujours cette même oppression, le dimanche. J'aurais tellement voulu que Gabi se réveille. Le prendre dans mes bras. Jouer avec lui à ce qu'il voudrait. L'aider à faire un puzzle. Regarder des dessins animés sur la tablette. Alex m'a lancé un regard de tordu et j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Je sais bien à quoi elle pensait, ce porc. Mais je ne supporte plus qu'il me touche. J'ai récupéré le carnet, je l'ai caché sous mon t-shirt et j'ai filé direct aux toilettes. J'ai fermé la porte à clé. Et voilà. Je suis là, assise sur la cuvette des chiottes. J'ai même pas baissé mon pantalon. Pas envie de pisser. Juste d'être seule dans une pièce fermée à double tour. J'essaie de respirer, de me délivrer de l'étau qui comprime mes poumons, de l'angoisse qui me noue de l'intérieur. J'essaie de ne penser à rien, même pas à ce qui m'a menée à vivre cette vie-là, enfermée dans cet appartement où rien ne me ressemble, les meubles moches et le carrelage blanc froid comme la mort. Le banc de muscu, le vélo sans roue qui n'emmènera jamais personne nulle part, la télé immense, la console de jeu, mariée à ce type que je déteste et qui m'effraie, qui me considère comme sa chose, sa propriété, sa boniche, mère d'un enfant que j'adore, mais qui aurait sans doute mérité une autre vie, un autre père, une autre mère mieux armée que moi, mieux préparée, plus heureuse. Plus stable. Je m'inquiète tellement pour lui. Il doit bien sentir que j'aime pas son père et qu'Alex me traite comme une merde. Comment on grandit dans ces conditions? Qui devient-on? Et puis qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Je l'ai eu trop tôt, j'ai plus de boulot, j'ai pas fait d'études, j'ai plus de famille, mes parents ne veulent plus entendre parler de moi. Ma sœur a disparu dans la nature. Je trompe mon mari avec un mec que j'ai rencontré à Pôle emploi. Un mec marrant, mais déjà bien cabossé, je crois. Un mec bizarre et fragile. Qui m'offre un carnet pour que j'y écrive mon journal. Qui me cache des choses, sûrement. Qui, lui non plus, n'a pas de boulot, pas d'avenir. Qui rêve trop. Il me parle de musique. Me dit qu'il compose, qu'il prépare un album. J'ai pas entendu la moindre note jusqu'à maintenant. Il dit qu'il me fera écouter quand ce sera prêt, que c'est en chantier. Au fond, je ne sais rien de lui. Ni où il habite exactement, ni qui il est vraiment. Mais je crois que je m'en fous. Il est doux, tendre, drôle, parfois. Il ne me fait pas peur.